maire de Caladan, ô gens du duc Leto, citadelle abattue, à jamais disparue. Extrait de Chant de Muad'Dib par la princesse Irulan. Tout son passé, tout ce qu'il avait vécu, songeait Paul, était devenu comme du sable s'écoulant dans un sablier. Assis auprès de sa mère dans la petite tente de plastique et de tissu, l'abri d'Istille, il avait croisé les mains sur ses genoux. L'abri d'Istille provenait, tout comme la tenue Fremen qu'il portait maintenant, du paquet trouvé dans leur nid. Dans l'esprit de Paul, il n'y avait plus de doute quant à l'identité de celui qui avait placé le paquet là, qui avait pris ses dispositions pour que l'ornithoptère les amène là, auprès de Duncan Idaho. Yue, le docteur traître. Au-delà de l'extrémité transparente de l'abri d'Istille, il apercevait les rochers baignés de lune qui délimitaient ce refuge préparé par Idaho. Je me cache comme un enfant alors que je suis le duc maintenant, songea Paul. Cette pensée l'irritait, mais d'autre part, il ne pouvait nier que Duncan Idaho eût agi sagement. Cette nuit, sa perception avait été modifiée. Il voyait avec clarté et netteté tout ce qui l'entourait, les événements, les circonstances. Il se sentait incapable d'endiguer le flot d'informations qui se déversait en lui. Avec une froide précision, chaque nouvel élément s'ajoutait à sa connaissance et l'opération était localisée au centre de sa conscience. Un pouvoir de mentat, plus encore. Il songea à ce moment de rage impuissante qu'il avait connu lorsque l'étrange ornie avait plongé sur eux du fond de la nuit, comme un faucon gigantesque, le vent du désert sifflant dans ses ailes. C'est alors qu'il s'était passé quelque chose dans son esprit. L'ornie avait glissé sur le sable, droit sur eux, et il se souvenait de l'odeur de soufre brûlé qui s'était élevée des patins de l'appareil crissant sur le sable. Sa mère, il le savait, s'était retournée avec la certitude d'affronter un pistolet laser. Et elle avait vu Duncan Idaho. Il se penchait au dehors par la porte ouverte et il leur avait crié « Vite, il y a le signe du ver au sud !» Pourtant, Paul, à l'instant où il s'était retourné, avait su, lui, qui pilotait l'ornie. Des détails subtils concernant sa façon de voler, de se poser, avaient été pour lui autant d'indices, si minces que sa mère ne les avait pas décelés. Jessica bougea et dit « Il ne peut y avoir qu'une explication. Les Harkonnen tenaient la femme de Yue en leur pouvoir. Ils les haïssaient. Je n'ai pu faire erreur sur ce point. Tu as lu son message, mais pourquoi nous a-t-il sauvés du carnage ?» Elle ne le devine qu'à présent, et bien difficilement, pensa Paul. Et cette pensée fut un choc. Il avait compris les faits simplement en lisant le message qui accompagnait l'anneau ducal. « N'essayez pas de me pardonner », avait écrit Yue. « Je ne veux pas de votre pardon. J'ai déjà bien assez de fardeau. Ce que j'ai fait, je l'ai fait sans méchanceté et sans espoir d'être compris. » Ce fut mon Tahadi al-Burhan, mon dernier test. Je vous donne le sceau ducal pour prouver que j'écris la vérité. Lorsque vous lirez ces lignes, le duc Leto sera mort. Puisse l'assurance que je vous donne qu'il n'est pas mort seul, mais qu'il a entraîné avec lui celui que nous détestions par-dessus tout, vous consoler. Il n'y avait ni adresse ni signature, mais l'écriture était familière. En se rappelant la teneur du message, Paul revivait sa détresse comme quelque chose d'aigu, d'étrange, qui semblait se situer à l'extérieur de sa nouvelle vivacité mentale. Il avait lu que son père était mort et il savait que ces mots étaient vrais. Mais cela n'était pour lui qu'un élément nouveau, une information supplémentaire qui était entrée dans son esprit pour être utilisée. J'aimais mon père, se dit-il, sachant bien que c'était vrai. Je devrais le pleurer. Je devrais ressentir quelque chose. Mais il ne ressentait rien. Il pensait seulement, voilà un fait important. À côté de bien d'autres, et sans cesse, son esprit ajoutait des impressions nouvelles, extrapolées, calculées. Les paroles d'Alec lui revinrent. « On se bat quand il le faut, et pas lorsqu'on en a le cœur. Garde donc ton cœur pour l'amour ou pour jouer de la balisette. Ne le mêle pas au combat. » Peut-être en est-il ainsi, se dit-il. Je pleurerai mon père plus tard, lorsque j'en aurai le temps. Mais dans la précision froide qu'il habitait maintenant, il ne ressentait pas le moindre fléchissement. Sa nouvelle perception venait seulement de naître et elle continuait de se développer. Cette sensation d'un but terrible qu'il avait éprouvé lors de sa confrontation avec la révérende mère Gaius Hélène Morhayam lui revint. Sa main droite, sous le souvenir de la souffrance, devint brûlante. Être le Kwisatz Haderach, c'est donc cela? J'ai pensé pendant un temps que Hawat s'était encore trompé, dit Jessica. Je crois qu'il est possible que Yue n'ait pas été docteur Souk. Il était tout ce que nous pensions, et plus encore, dit Paul. Il pensa, pourquoi est-il si lent à voir ces choses? Si Idaho ne parvient pas jusqu'à Kynes, nous serons... C'est notre seul espoir, dit-elle. Ce n'est pas ce que je suggérais. Dans la voix de son fils, elle décela une dureté d'acier, une inflexion de commandement. Et dans l'ombre grise de l'abri d'Istille, elle le regarda. Il se silhouettait sur l'image claire des rochers givrés de lune. D'autres hommes de ton père ont dû réussir à fuir. Nous devons les regrouper. Trouver. Nous allons dépendre de nous-mêmes, dit-il. Notre premier souci devra être l'arsenal d'atomique. Il faut l'atteindre avant que les Harkonnen ne se mettent en quête. Il est peu probable qu'ils le découvrent là où il est caché. Nous ne devons pas courir ce risque. Utiliser les atomiques de la famille pour menacer toute la planète et son épice. Voilà ce qu'il a en tête. Mais alors, il ne peut espérer survivre qu'en se réfugiant dans l'anonymat d'un renégat. Les paroles de sa mère avaient déclenché un nouveau flux de pensées dans l'esprit de Paul. En tant que duc, il s'inquiétait du sort de ces gens perdus dans la nuit du désert. Les hommes sont la force véritable de toute grande maison, se dit-il. À nouveau, lui revinrent des paroles de Hawat. Il est triste d'être séparé de ses amis, mais une demeure n'est jamais qu'une demeure.
Des Sardaukars sont avec eux, dit Jessica. Nous devrons attendre leur départ.
Ils nous croient pris entre le désert et les Sardaukars.
Ils n'entendent pas laisser un seul Atreide en vie. L'extermination totale. N'espère pas en voir échapper aucun de nos gens. Mais ils ne pourront continuer sans cesse. Ils courraient le risque de révéler quel a été le rôle de l'empereur.
Le crois-tu?
Quelques-uns de nos hommes parviendront à s'enfuir.
Vraiment?
Elle se détourna, effrayée par l'amertume et la dureté de la voix de son fils. Il avait calculé avec précision les chances. Elle le sentait dans ses paroles.
C'était comme si l'esprit de Paul s'était brutalement éloigné du sien, comme s'il voyait plus loin qu'elle maintenant.
Elle avait participé à son éducation, mais à présent, elle avait peur du résultat. Ses pensées se tournèrent alors vers son duc, comme vers un sanctuaire perdu, et les larmes vinrent lui brûler les yeux.
Il devait en être ainsi, Leto, pensa-t-elle. Un temps pour l'amour, un temps pour la peine.
Elle mit la main sur son ventre, consciente de la présence de l'embryon.
J'ai en moi cette fille des Atreides que l'on m'a ordonné d'engendrer. Mais la révérende mère s'est trompée. Une fille n'aurait pas sauvé mon Leto. Cet enfant n'est qu'une vie qui tente d'atteindre l'avenir dans un présent de mort. Je l'ai conçu par l'instinct et non par obéissance.
Vous devriez essayer à nouveau le communicateur, dit Paul.
L'esprit continue de fonctionner quoi que nous fassions pour l'en empêcher, se dit-elle.
Elle prit en main le minuscule appareil qu'Idaho leur avait laissé et mit le contact. Un voyant vert s'alluma. D'infimes grésillements sortirent du petit haut-parleur. Elle régla la fréquence et une voix retentit. Elle prononçait des mots dans le langage de bataille des Atreides. Retraite et regroupez-vous dans le massif. Rapport Fedor, pas de survivants à Carthage. La banque de la guilde a été pillée.
Carthage, songea Jessica. Un fief Harkonnen.
Des Sardaukars. Prenez garde aux Sardaukars. Ils sont en uniforme atréide. Ils...
Un ronflement envahit le haut-parleur. Puis plus rien.
Essayez les autres fréquences, dit Paul.
Comprends-tu ce que cela signifie?
Je m'y attendais. Ils veulent que la guilde rejette sur nous la responsabilité de la destruction de la banque. Avec la guilde contre nous, nous sommes pris au piège sur Arrakis.
Essayez les autres fréquences.
Elle soupesa les mots qu'il venait de prononcer.
Je m'y attendais. Que s'était-il passé en lui?
Lentement, elle revint au communicateur. Comme elle explorait la gamme des fréquences, elle accrochait des voix violentes. Repliez. Essayez de vous regrouper. Prisonnier dans une grotte à... Aux voix atréides se mêlaient des appels exultants en langage de combat Harkonnen. Des ordres brefs, des rapports d'engagement. Tout était trop bref pour que Jessica pût enregistrer et découvrir le sens exact des mots, mais le ton était suffisant. Il clamait avec éloquence la victoire des Harkonnen. Paul secoua le paquet posé à côté de lui et entendit glouglouter l'eau des deux jolitres. Il inspira à fond et son regard se tourna vers l'extrémité transparente de l'abri, vers les rochers silhouettés sur le fond des étoiles. Sa main gauche se posa sur la fermeture du sphincter d'entrée.
L'aube sera bientôt là, dit-il.
Nous pouvons encore attendre Idaho pendant une journée, mais pas une nuit. Dans le désert, il faut voyager la nuit et se reposer durant le jour, à l'ombre.
Sans distille, se souvint Jessica.
Un homme assis à l'ombre, dans le désert, a besoin de 5 litres d'eau par jour pour maintenir l'équilibre de son organisme.
Leur existence dépendait de ce vêtement dont elle sentait la matière soyeuse et douce contre sa peau.
« Si nous partons, Idaho ne nous retrouvera jamais, » dit-elle.
Il existe des moyens de faire parler un homme. S'il n'est pas revenu à l'aube, nous devrons admettre l'éventualité de sa capture. Combien de temps croyez-vous qu'il puisse tenir ?
Cette question n'appelait pas de réponse et Jessica demeura silencieuse. Paul défit la tâche du paquet et en sortit un micro-manuel muni de sa visionneuse et de son brilleur. Des lettres oranges et vertes se matérialisèrent, surgit d'entre les pages. Jolitre, abri distille, capsule d'énergie, recycle, snork, jumelle, repkit de distille, pistolet baramarque, basse carte, filtre, paracompas, hameçon à faiseur, marteleur, fremkit, pilier de feu.
Il fallait tant de choses pour survivre dans le désert. Il posa le micro-manuel.
« Où pourrions-nous aller ?» demanda Jessica.
« Mon père parlait du pouvoir du désert. Sans lui, les Harkonnen ne réussiront pas à dominer cette planète. En fait, ils n'y sont jamais parvenus et ils n'y parviendront jamais, même avec 10 000 légions de Sardaukars.
Paul, tu ne penses pas que...
Nous avons toutes les preuves entre nos mains. Ici même, dans cette tente. La tente, ce paquet et tout ce qu'il contient, c'est distillé. Nous savons que la guilde exige une somme prohibitive pour des satellites météorologiques. Nous savons que...
Que viennent faire les satellites climatiques dans tout ceci? Ils ne pourraient pas...
Elle s'interrompit.
Paul lisait ses réactions, calculait, intégrait les moindres détails. À présent, vous le voyez, dit-il. Les satellites observent le sol. Il existe dans le désert des choses qui ne doivent pas être observées.
Tu soupçonnes la guilde de contrôler cette planète?
Lente. Elle était si lente.
Non. Les Fremen. Ils payent la guilde pour préserver leur isolement. Et ils payent avec ce que le pouvoir du désert met à leur disposition.
L'épice.
Ce n'est pas une réponse fondée sur une approximation, mais le résultat de déduction directe.
Paul, tu n'es pas encore un Mentat. Tu ne peux être certain de « je ne serai jamais un Mentat ».
Je suis autre chose. Une monstruosité.
Paul, comment peux-tu dire de telles...
Laissez-moi seul !»
Il se détourna d'elle et son regard plongea dans la nuit.
« Pourquoi ne puis-je pleurer ? » songeait-il.
Chaque fibre de son être s'y efforçait, mais il savait que cela lui serait à jamais refusé. Jamais encore Jessica n'avait perçu une telle détresse dans la voix de son fils. Elle aurait voulu le serrer contre elle, le consoler, l'aider. Mais elle savait dans le même instant qu'elle ne pouvait rien pour lui. Il devrait résoudre lui-même ses problèmes. Le manuel du Fremkit qui continuait de briller sur le sol attira son regard. Elle le prit et lut « Manuel du désert ami, ce lieu plein de vie. Voici l'ayat et le burhan de la vie. Crois, et jamais Allah ne te consumera. »
Cela ressemble au livre d'Ajar, se dit-elle,
se souvenant de ses études des grands secrets.
Araki serait-elle connue un manipulateur de religion?
Paul prit le paracompas dans le Fremkit, le reposa et dit « Songez à tous ces appareils Fremen aux fonctions précises. Ils sont l'indice d'une sophistication incomparable. Admettez-le, la culture qui a conçu tout ceci est plus vaste qu'on le soupçonne. » En hésitant, toujours troublée par la dureté de la voix de son fils, Jessica se pencha de nouveau sur le manuel. Une constellation du ciel Arakin. Muad'Dib, la souris. Elle remarqua que la queue était dirigée vers le nord. Paul observait la silhouette de sa mère, vaguement dessinée par la clarté du brilleur du manuel. « Voici venu le moment d'exaucer le vœu de mon père, » songea-t-il. « Je dois lui transmettre le message maintenant, alors qu'elle a encore le temps de pleurer. Plus tard, ce serait inopportun. » Cette logique précise le choqua. « Mère ?»«
Oui ?»
Elle avait décelé le changement dans sa voix. Le froid se répandait maintenant dans ses entrailles. Mais jamais encore elle n'avait perçu un contrôle si dur. « Mon père est mort, » reprit Paul. Elle chercha en elle-même, les faits s'accouplant aux faits, l'assimilation Bene Gesserit. Et cela lui vint, la sensation d'une perte terrifiante. Et elle hocha la tête sans pouvoir parler. Mon père m'avait chargé de vous transmettre un message si quelque chose lui advenait. Il craignait que vous ne pensiez qu'il se défiait de vous. Ce soupçon inutile, pensa-t-elle. Il voulait que vous sachiez qu'il n'en a jamais été ainsi. Il expliqua les faits tels qu'ils avaient été et ajouta « Il désirait que vous sachiez que vous aviez sa confiance absolue, qu'il vous aimait toujours. » Il a dit qu'il se serait plutôt méfié de lui-même que de vous et qu'il n'avait qu'un regret, celui de ne point vous avoir fait duchesse. Elle essuya les larmes qui roulaient sur ses joues et pensa « Quel gaspillage stupide, toutes ces eaux. » Mais elle savait dans le même instant que cette pensée révélait seulement son désir de se réfugier dans la colère. « Leto, mon Leto. » Quelle terrible chose pouvons-nous faire à ceux que nous aimons ? D'un geste brusque, elle éteignit le brilleur du manuel. Elle se mit à sangloter. Paul entendait son chagrin. En lui, il ne distinguait rien. « Je n'ai pas de chagrin, » pensa-t-il. « Pourquoi ? Pourquoi ?» Cette incapacité de trouver du chagrin lui semblait une tare redoutable. « Un temps pour avoir. » Un temps pour perdre, pensa Jessica. Une phrase de la Bible catholique orange. Un temps pour garder, un temps pour rejeter. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix.